Bienvenue. On fait aujourd'hui un tour d'horizon de plusieurs situations clés en Afrique, en se basant sur des dépêches récentes d'Africa Press. On va parler tensions diplomatiques, ressources naturelles, gouvernance, dans pas mal de pays, Burundi, RDC, Rwanda, Niger, Nigeria, Soudan. L'idée, c'est de comprendre un peu les dynamiques de fond. Commençons par le dossier RDC-Rwanda. Il y a du nouveau, non ?
Oui, une annonce assez importante. Le Rwanda parle d'une possible signature d'accord de paix en juin.
Ah oui, après des mois de tensions vives, qu'est-ce que ça cache ?
C'est le résultat des négociations intenses, avec une forte implication américaine notamment. Un projet d'accord doit être finalisé mi-mai à Washington. Ça arrive après, il faut le dire, des avancées militaires du M23 sur le terrain. Ce groupe que l'ONU dit soutenu par Kigali.
Et le Rwanda, quelle est sa position officielle là-dessus ?
Kigali met en avant ses propres inquiétudes sécuritaires, surtout liées au FDLR, les rebelles Hutus rwandais qui sont basés en RDC. Mais bon, il faut rester prudent, on a déjà vu des cessez-le-feu échouer par le passé.
Donc la pression américaine sur Kigali pour, disons, lâcher le M23, c'est ça le nerf de la guerre ?
C'est très probablement un facteur clé, oui. Cette annonce rwandaise, ça peut être un calcul. Montrer patte blanche à Washington. Tout en espérant peut-être consolider ce que le M23 a gagné. C'est un jeu diplomatique assez complexe vu l'historique.
D'accord. Changement de décor, mais tension toujours. Le Soudan coupe les ponts avec les Émirats arabes unis. C'est brutal.
Ah oui, très brutal. Le 6 mai, Khartoum a rompu ses relations diplomatiques. L'accusation est grave. Soutien des EAU aux forces de soutien rapide du général Daglo. On parle même de fourniture de drones pour attaquer Port-Soudan.
Port-Soudan. Là où le gouvernement soudanais s'est replié.
Exactement. Khartoum qualifie ça de crime d'agression. Les Émirats, eux, nient tout en bloc, évidemment.
Et ça dans le contexte de la guerre civile qui fait rage depuis 2023. Quelles conséquences ?
Ça risque d'isoler encore plus le gouvernement de Khartoum. Ça pourrait aussi aggraver la crise économique qui est déjà terrible. Et ça complexifie encore la situation régionale.
Passons aux ressources naturelles. C'est souvent le cœur des tensions. Au Niger, notamment avec Orano.
Oui, tout à fait. Début mai, il y a eu une perquisition dans les bureaux d'Orano à Niamey. Du matériel a été saisi. Et ça vient après qu'Orano ait déjà perdu le contrôle opérationnel de sa mine de Sommaire en décembre dernier, suite au coup d'État.
Ce n'est pas juste un problème entre Orano et le Niger, j'imagine.
Non, c'est plus large. On voit la même tendance au Mali, au Burkina Faso. Ces régimes militaires veulent clairement renforcer leur contrôle sur les ressources minières stratégiques, l'uranium par exemple.
Et en même temps, ils prennent leur distance avec la France.
C'est ça. Et ils cherchent d'autres partenaires. On parle beaucoup de la Russie, de la Chine. C'est une affirmation de souveraineté très nette qui bouscule les anciens équilibres.
Cette tension sur les ressources, on la retrouve aussi au Nigeria. Mais différemment, avec ce que dit Aliko Dangote.
Oui, c'est un autre type de tension. Dangote, le milliardaire, critique ouvertement l'ancienne direction de la compagnie pétrolière nationale, la NNPC. Il leur reproche les difficultés d'approvisionnement en brut pour sa nouvelle méga-raffinerie. Il parle même d'une mafia du pétrole.
Une mafia du pétrole, carrément.
Oui, il dit que la NPC ne lui fournit qu'une petite partie du brut dont il a besoin, l'obligeant à importer. Tout ça sur fond de baisse générale de la production nigérienne. Ça pointe des problèmes de gouvernance interne, de gestion.
Venons-en à la politique intérieure, aux droits humains. Au Burundi, il se passe des choses autour de la Commission des droits de l'homme.
Oui, et c'est assez préoccupant. Le Parlement a créé une nouvelle commission. Sa mission...
Contrer l'envoyé spécial de l'ONU, Fortune Gaëtan Zongo, qui est jugé trop critique.
Attendez, une commission des droits de l'homme pour contrer un expert des droits de l'homme ?
C'est le paradoxe, oui. D'ailleurs, l'ancien président de la commission précédente, Sixte Vigné Nimouraba, a dû s'exiler après avoir publié un rapport assez accablant sur les violations.
Et donc, cette nouvelle commission, elle est vue comment par les observateurs ?
Comme une commission aux ordres du pouvoir. Beaucoup dénoncent une tentative de museler les critiques sur la répression qui continue depuis 2015, les disparitions, les arrestations. Sa légalité même est contestée.
En RDC, un ancien président reste visible, Joseph Kabila.
Oui, malgré les accusations très lourdes qui pèsent sur lui, crimes de guerre, corruption, Kabila est toujours actif sur la scène diplomatique. Il rencontre des chefs d'État actuels, comme William Ruto au Kenya, des anciens comme Obasanjo, qui est médiateur pour la RDC, et même l'opposition comme Martin Fayoulou.
Il cherche à peser et à garder une influence.
Clairement. Face à la crise sécuritaire qui ne s'arrête pas, il essaye de rester pertinent. Il soutient aussi l'idée d'un dialogue national, une idée poussée par les églises.
Un mot sur le Rwanda, une affaire un peu différente qui mêle mode, réseaux sociaux et politique. Oui, le procès de Moses Turahiroua, le créateur de la marque Motions. Il est accusé de consommation de drogue, mais lui, il affirme que son arrestation est surtout liée à des critiques qu'il aurait postées sur Instagram contre le président Kagame, des messages qui ont été supprimés depuis.
Il a reconnu la consommation ?
Il a reconnu la consommation, oui, mais il nie le trafic. L'affaire soulève évidemment des questions sur la liberté d'expression, surtout qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires.
Et pour finir ce tour d'horizon, le Soudan du Sud. Le processus de paix semble en difficulté.
Oui, ça patine sérieusement. Le président de la Commission de l'Union africaine était à Djouba début mai. Bilan mitigé, il a vu le président Salva Kiir, mais pas le vice-président Riek Machar, qui est en fait détenu depuis mars.
Détenu, ouais.
Ça complique tout.
Énormément. L'accord de paix de 2018 est menacé. Il y a de nouveaux affrontements et cette détention de Machar. L'UA, l'IGAD, appellent au dialogue, mais bon, le scepticisme domine. On craint un peu le scénario de 2016 quand Machar avait été évincé et que la violence avait repris.
Toutes ces situations, quand on les met bout à bout, ça dessine quand même l'image d'États africains en pleine transformation, non ? Qui cherchent leur voie entre affirmer leur souveraineté, gérer des crises internes, des pressions externes. C'est tout à fait ça. On sent cette volonté très forte d'affirmation nationale, parfois de manière assez directe, face aux anciens partenaires ou aux institutions internationales. Et ça soulève une question de fond qui reste entière. Comment ces États vont réussir à concilier cette quête d'indépendance, cette souveraineté retrouvée ou revendiquée, avec, d'un autre côté, le besoin de coopération régionale, internationale, et puis le respect des normes universelles, notamment pour les droits humains. C'est souvent ça la clé d'une stabilité durable.
Un équilibre difficile à trouver.
Très difficile. Et la manière dont cet équilibre sera trouvé ou pas, ça déterminera beaucoup de choses pour l'avenir de ces régions. C'est une question complexe et elle n'est pas prête d'être résolue.